Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Get in the mix, stir the batter. Constant chatter on CKUT 90.3 FM. Did I miss something?
Thank you. Bonjour à tous. Vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Bonjour, bonne semaine, bon matin.
Bon lundi matin.
Bon lundi matin, Marc-André, mon nom est Nelson. Comment vas-tu, mon cher?
Je vais très bien, et toi?
Super bien.
C'est l'été, on est en feu.
On est en plein milieu de l'été. On est de retour, on était absent. On a fait une petite pause improvisée, disons-le comme ça.
Parce qu'on a couru la galipette dans tous les festivals possibles et impossibles.
On est allé voir des spectacles, comme vous, sûrement aussi, peut-être.
Exactement.
Il y avait du choix. On n'a pas tout vu.
Non.
C'était impossible à tout voir. Mais Torpinouche qui avait du choix, hein? C'est...
Exactement.
Il y avait beaucoup de stock.
J'aime ton expression, Fafouin.
Exactement. Mais vraiment, c'était fou. On a couru les festivals un peu. On n'a pas tout vu, évidemment. On a nos vies, chacun, nos familles. Et...
Mais on s'est rejoint sur plusieurs sites. Hey, avant, je veux juste dire au moins c'était qui qu'on écoutait. Le
oui.
Grand, l'unique,
on vient
à toi
d'écouter,
l'honneur.
On vient d'écouter une pièce de Herbie Hancock de l'album...
Avec les Headhunters.
Headhunters.
Paru en 1973.
Wow!
Une super belle année, année
oui.
De ma naissance.
C'est vrai?
Eh oui.
Oh, palais.
Et ce vinyle, c'est un vinyle qu'on écoutait paru sur Columbia Records. Et regarde le prix que j'ai payé, la petite tag jaune, orange.
Un beau 10$ rond.
Hey, c'était-tu le fun dans ce temps-là?
10$.
Quand que le monde courait pas après les vinyles puis qu'il faisait monter à 50$, j'ai payé 10$, flambant neuf.
En 1973? Ou...
Ouais, pas exactement. C'est ouais, à peu près, ça serait drôle. Mais ça devait être le prix à l'époque, ça niaisait.
Ouais, sûrement.
Ouais, à peu près, une dizaine de piastres.
Ça devait être dans ce coin-là.
Ouais. C'était le fun, ça.
J'avoue que j'ai pas vécu cette époque-là, j'étais pas encore né.
Non.
Mais combien valait un album neuf en 1973?
Oui.
D'après toi?
Ben moi, je pense...
Autour
ça jouait entre 8, 9, 10 piastres à peu près. Je vois souvent des albums, je sais pas si c'était en spécial, là, mais à 8,99, tu achètes des vinyles où tu vas dans des bins usagés, puis le sticker est encore là, puis ça jouait dans 6,99, 8,99. Puis, ben celui-là, 10 piastres... Hey, mais c'est ça, Herbie, quel grand musicien. On regardait en dedans dans la pochette. Et il a joué avec le grand, l'unique, le seul Miles Davis.
Oui.
De 1900.
Dans les 63 à 68, pour être exact.
Avec un gros 5 ans, à peu près.
Il jouait du piano dans soit le quintet ou le quatuor, je ne m'en souviens plus. Là.
Ouais.
Ça devait être le quintet. Il y avait sûrement un drummer, un bass. Une basse et Miles Davis et le piano.
Ouais, ça doit être un quartet d'abord.
Donc, une, deux, trois, quatre.
On s'est compté ce matin.
Oui.
On compte sur nos doigts.
On prend un café et on raconte les membres de musiciens, le nombre de musiciens dans le quatuor de Miles Davis. Donc, il y avait Herbie Hancock. Et cet album-là, ben, pourquoi on l'a mis ce matin? Est-ce qu'il y a une raison particulière?
Non, ben c'était le festival de jazz qui s'est terminé il n'y a pas si longtemps qu'on est allé. On a découvert des choses, des groupes nouveaux, moins nouveaux. Mais moi, je veux juste commenter la pochette psychotronique hallucinante. Regardez sur les médias sociaux ou regardez dans votre collection ou celle de votre père. C'est un tripeux de funk
ou
jazz de votre mère ou ça. Vous venez écouter. Et c'est Herbie Hancock avec ses quatre autres musiciens, fait qu'ils sont cinq, et sur son piano, il nous fait face. Il y a comme une espèce de masque tribal, mais c'est comme du tribal électro, parce que c'est la bouche, c'est les autres fréquences, basses fréquences.
L'aiguille VU, là, d'un stéréo. Là.
Exactement.
Donc, le d'une bouche, puis les boutons, c'est comme des... Pardon, les yeux, c'est comme des boutons d'une chaîne stéréo.
Oui, exactement.
Ouais.
Puis c'est de toute beauté. Et à l'endos, ben, on voit Herbie sans son masque et avec son crew. La chanson qu'on a écoutée, c'était bien...
Chameleon Man.
Eh oui.
Non, pardon.
Non,
Watermelon Man.
Ouais.
Il y a aussi une chanson qui s'appelle Chameleon.
Ouais.
Chameleon. Mais là, c'était Watermelon Man, ouais. La deuxième pièce de l'album.
Melon d'eau, l'homme melon d'eau. Et sur cet album-là, ben, il y a plusieurs acolytes, dont, je vous dis des noms, moi je ne les connaissais pas. Il y a Benny Maupin, il y a Harvey Mason, il y a Paul Jackson et Bill Sommer, entourés de... Le grand maître. Herbie Hancock, surtout dans ces années-là, qu'est-ce qui est le fun? C'est bien funky.
Ouais.
C'est bien jazz, mais c'est quand même assez accessible, sauf que c'est des longues pièces, comme vous avez pu le voir. Et moi, je l'avais découvert, honnêtement, avec Rocket.
Oui.
Il y avait un vidéoclip qui allait avec ça, puis c'était comme au début du breakdance, au début du hip-hop. Proto-hip-hop. Oui, oui,
oui. Ouais.
Puis c'était un robot, puis c'était des samples. C'était lui qui s'auto-séquençait, si je peux dire. Ouais. Là, il se samplait. Puis
le synthétiseur.
Synthétiseur, puis tout ça.
Donc, il a comme suivi l'évolution technologique au niveau des instruments de musique.
Exact.
Donc, il a pu introduire ça. Donc, il est vraiment comme un peu
fait
exploser le jazz classique là,
ouais.
Au début des années 70. Il faut dire que c'est aussi... Ben, il n'était pas tout seul à faire ça, mais c'est le jazz fusion qui est comme un peu qui est né dans cette époque-là, à la fin des années 60, début 70. Où est-ce que là, on essayait de... Le jazz était moins populaire chez les jeunes. Donc, les jeunes qui étaient plus du côté du rock, qui avait vraiment explosé à la fin des années 60. Woodstock, on se replonge dans le contexte. Puis, tu avais des musiciens de jazz qui ont essayé de rejoindre justement un peu plus les jeunes en fusionnant d'autres styles musicaux comme le rock, le funk, l'électronique, ouais. Tranquillement aussi. Puis, Herbie Hancock fait partie de ces précurseurs-là qui ont... ouvert les portes pour le jazz fusion, en guillemets.
Exact, avec Weather Report, Mavishnu Orchestra, en tout cas.
Puis Miles Davis aussi.
Ouais, Miles Davis qui a touché à tout, à toutes les
avec
styles.
Avec Bitches Brew.
Ouais.
Donc,
qu'on fera jouer à un moment donné, mais ça aussi, ça va prendre la moitié de l'émission, fait qu'on parlera pas. On va vous reposer les oreilles.
Très longue pièce.
Exact. Hey, parlons du Festival de jazz.
Ah,
on
oui,
disait que c'était la 42e édition du Festival international de jazz de Montréal.
C'est plus vieux que moi.
Exact.
De 2 ans.
De 2 ans. T'étais pas né. T'étais dans le liquide amniotique pendant que tes parents étaient au Festival de jazz.
Même
t'étais
pas.
Dans les spermatozoïdes.
Non, même pas. Oui, c'est ça. J'étais plus dans cette zone-là.
Oh, bon appétit tout le monde. Céréales et lait et cassonade. Non, mais sans niaiser, ben c'est ça, c'était une belle... c'était un beau retour du Festival de jazz. L'année passée, on est allé, mais on avait été voir Michel Cusson, on avait été voir Teke Teke, mais c'était un peu contraignant avec les passes sanitaires, tout ça. Cette année, c'était free-for-all, c'était back comme dans
ouais,
le temps.
Un retour à la normale ou presque.
Ouais.
Donc, la grande, grosse programmation extérieure gratuite, programmation intérieure complète. La seule chose qui manquait, c'était la programmation pour enfants avec la petite école du jazz.
Ah ouais, c'est vrai, ouais. Avec le piano que tu...
avec la mascotte Sainte-Cat.
Ouais, Sainte-Cat.
Je ne l'ai pas vu cette
non,
année.
Ouais. il devait avoir chaud, la mascotte, qui aurait été dans son accoutrement à bleu. C'est comme Blue Note un peu. Là,
ouais.
Bleu,
ouais.
Ben, on a vu, qu'est-ce que tu as vu que tu as bien aimé? On s'est vu là.
Ben écoute, pour moi, vraiment, ben c'était je l'attendais depuis longtemps. C'était Kamasi Washington.
Yeah.
Le grand saxophoniste qui nous vient de Los Angeles, je crois, Californie.
C'est un Américain, en tout cas. Ouais. Ça, on est sûr. Ouais.
Californie pour certains. Et puis, écoute, c'était vraiment... on n'a pas été déçus. Non. C'était sur la grosse scène, un samedi soir. Il y avait beaucoup de monde. On était arrivé un petit peu d'avance. On était bien placé devant la scène.
Exact.
Super bonne prestation qui a duré un peu plus qu'une heure et demie. Le son était excellent. Il n'y avait pas la formule Big Band de Kamasi Washington comme on a peut-être déjà vu dans le passé, puisque je sais qu'il est déjà venu à Montréal, mais moi, je ne l'ai jamais vu. Il y avait un trompettiste, trombone, saxophone alto. En fait, le trompettiste, je pense que c'était le saxophone alto. Deux drummers.
C'est ce que je m'en allais dire, ce qui m'a marqué le plus. Deux drummers.
Piano, basse.
Une chanteuse choriste. Ouais.
C'est vrai.
Ouais.
Et Kamasi au saxophone. Donc, vraiment, c'était excellent. Il a donné beaucoup de place à tous ses musiciens.
Oui, très généreux, oui.
Plusieurs solos chaque.
Oui.
Il nous les a présentés au moins 15 fois chaque.
Ouais.
Donc, ça lui permettait de prendre une petite pause entre deux solos de sax.
Oui.
Puis, il a joué des grands hits de son premier album, de son deuxième album aussi, qui s'appelle... j'ai oublié.
Ça, je peux pas t'aider là-dessus. Ouais.
Heaven and Earth.
Ça, c'est-tu l'album en vinyle qui serait comme le quadruple?
Je pense que les deux sont quadruples parce que ces albums sont tellement longs.
Okay.
Ils ont comme 20 tracks chaque. Oh. Ben, il y a The Epic, qui est son premier album, et l'autre qui s'appelle Heaven and Earth. Et il y a aussi Harmony of Difference. Il a joué une pièce super bien introduite, d'ailleurs. Là, c'est celle sur laquelle il parle des différences, la beauté des harmonies différentes quand tu les mets ensemble.
Okay.
Bref, vraiment, moi, j'ai été comblé de A à Z. C'était vraiment un grand spectacle, un grand musicien qu'il faut aller, vous faut courir, aller voir. Si vous aimez un peu le jazz, c'est du haut calibre, là.
Exact. Moi, j'étais vraiment impressionné par les deux percussionnistes. Un qui est plus réservé et un qui est plus, extraverti. Qui avait une perruque bleue.
Ouais.
Puis qu'il a perdu en faisant son solo de drum, une machine. Moi, j'adore ça. Quand il y a deux drummers, je trouve que visuellement, ça donne un show assez incroyable. Et son bassiste, il m'a vraiment impressionné aussi.
Ouais.
En retenue, mais avec un groove solide, puis on l'entendait super bien.
Ouais.
Puis comme tu as dit, Mr. Washington, il était vraiment généreux. Moi, j'aurais pensé qu'il y aurait plus... Je l'imaginais un peu à la Miles Davis, même si j'ai jamais vu Miles Davis en show, mais des fois, Miles Davis, il prenait le micro, là, il prenait le spotlight, même s'il laissait de la place aux autres par la suite. Mais j'ai trouvé, on dirait que M. Washington, il était comme, il faisait partie du groupe, puis il voulait pas plus que ça prendre de la place, même s'il apprenait, là, mais il exagérait pas. J'ai trouvé ça bien de sa part, c'était tout en douceur, c'était bien.
Comme il a vraiment mis de l'avant tous ces musiciens à plusieurs reprises dans le spectacle. C'est sûr que dans un show de jazz, on s'attend à ce que, tu sais, il y a un solo par musicien habituellement. Ouais. Mais là, vraiment, c'était comme plusieurs solos par musicien. Puis c'est ça, comme on disait, il les a présentés plusieurs fois chacun. Donc, c'était vraiment... tu as vraiment l'impression qu'il aime. Ben, même que, en fait, il a même présenté une pièce qui, je crois, qui est dans aucun de ses albums, je crois.
Celle qui est dédiée à sa fille?
Non, ça, c'est une nouvelle pièce qui est sortie en 2021, mais c'était plutôt une pièce qui était composée par le pianiste qui était sur scène.
Qui est vraiment bon aussi. C'est vrai, je l'avais oublié, lui.
Qui n'est pas une pièce de Camansi qu'on entend dans un de ses albums. C'est une pièce que j'avais jamais entendue, en fait. Donc, parce que moi, j'écoute beaucoup. J'ai beaucoup écouté les albums de Camansi Washington. Je les écoute en boucle presque. Vraiment, c'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup. Puis, non, c'est ça, le pianiste.
Il est incroyable.
Oui, ouais, vraiment, tous ces musiciens sont super. Puis moi, de ce que j'avais compris de son... Là, ces musiciens-là, je ne les connais pas. Je connais pas les noms. Mais du premier album, The Epic... c'était comme un genre de collectif. Puis dans le fond, ils se sont comme engagés chacun à participer l'un et l'autre à tour de rôle à l'album solo de chacun. T'sais.
Ah, OK.
Fait que là, ils ont tous fait... tous les musiciens qui ont fait l'album The Epic, l'enregistrement, ils ont tous travaillé sur l'album solo de chaque musicien par la suite.
T'sais. Comme un peu le Wu-Tang Clan dans
genre,
le temps.
Exactement.
C'est comme un collectif de « je viens t'aider quand ça va être ton album solo ».
Exactement.
Ah, c'est cool,
c'est ça qui s'est passé. Par la suite, j'ai aucune idée qu'est-ce qui s'est passé. Il faudrait fouiller un peu plus.
Mais le pianiste serait vraiment curieux. Tous les musiciens, là, mais le pianiste, il a une bonne prestance. Puis lui avec, au début, je trouvais qu'il jouait comme low-key, si je peux m'exprimer ici. Mais après ça, quand il a fait son solo, puis que c'était justement sa composition, c'est comme...
Ouais.
C'était magique, là. On était proches, puis en plus, il faisait des... faut dire qu'au Festival de jazz, il y a des écrans géants pour voir, et on voyait ses mains balader.
Ouais.
C'était incroyable. C'était une vitesse fulgurante.
Puis il faut dire qu'il y avait vraiment beaucoup un bon fanbase aussi, là, t'sais, dans le sens que les gens qui étaient là, en tout cas, on était près de la scène en avant.
Ouais, c'est des aficionados.
Ouais, beaucoup de fanatiques qui connaissaient ces pièces.
Ouais.
Avec raison, parce que c'est vraiment de la très bonne musique jazz.
Ouais, on vous le recommande. On en fera jouer. On essaiera de trouver une pièce.
Pièce qui n'est pas trop longue.
Le classique du problème.
Mais sinon, c'est ça. Je sais que son premier album dure environ 3 heures. Heaven and Earth, je ne sais plus combien de temps, mais au moins 2 heures facile aussi.
Okay.
C'est des gros albums.
Ouais. Il faut avoir du souffle, hein? Il faut avoir du poumon pour faire ça.
Ouais.
Ouais. Petite anecdote, moi je suis comme le Coco Douglas de Montréal. J'ai un ami qui est allé au l'ancien Savoie, en tout cas l'ancienne salle qui est en haut du Métropolis, une petite salle. Je sais pas si ça a gardé le même nom. Ah, c'est vrai, je peux pas dire Métropolis, le MTLUS, mais on
peut
se comprend.
Dire Métropolis,
mais il est allé là après le spectacle.
Okay.
Je pense que c'est Franck Duverso. Je le salue. D'ailleurs, on a des goûts musicaux assez semblables. Il était là et qui voit arriver? Monsieur Washington avec sa femme. Il n'a même pas le temps de se changer. Il avait encore son espèce de, moi j'appelle ça un espèce de boubou un peu africain, bien colorful.
Ouais.
Puis c'était lui, puis il s'en allait écouter des c'était des musiciens montréalais. Okay. Il faisait un jam, c'est un jam session, pardon. Puis c'était là. Fait qu'après le show, il est allé voir du jazz local.
Wow!
Fait que c'est incroyable. Puis,
j'aurais aimé ça être là.
Ouais, mais ça, my God. Ben c'est Fran, il venait de voir le show, puis il voit quelqu'un s'asseoir, puis il dit, ben ça peut pas être quelqu'un. Ça peut pas être...
C'est ça, il est facile à reconnaître.
C'est lui, tu sais.
Incroyable.
En parlant de Franz, mon ami Franz Duverso, que je salue, qu'on a eu une belle discussion. Nous, on est allé voir aussi l'autre samedi qui faisait la clôture, l'événement de clôture du festival de jazz. C'est The Roots.
Oui.
Directement de Philadelphie. Le grand groupe de hip-hop dirigé par Questlove, le drummer énigmatique qui a une collection de vinyles incroyable, qui est un mélomane, un passionné de musique. Ben c'était eux qui jouaient, puis c'était encore une fois débile. C'était sacoche.
Moi, j'ai manqué ça.
Oui, c'était vraiment, vraiment bon. Le guitariste, je le connaissais pas. Je ne sais pas si c'est un hired gun, un guitariste engagé. Parce que de ce que je comprends de Roots à Star, c'est vraiment Questlove puis le chanteur que je connais pas. Les deux, là, c'était eux qui étaient sur l'affiche du festival de jazz. Les autres musiciens, ils ont présenté, mais je suis pas sûr que c'était les original members. Mais peu importe, son guitariste, son bassiste, tout le monde qui était avec lui... Avec eux, c'était un super bon spectacle. C'était très dense comme public et on pouvait pas avancer. Faut l'arriver tôt. C'était, je sais pas combien il y avait de personnes qui ont assisté à ce spectacle-là, mais chapeau au festival, mais chapeau aux spectateurs et la musique était on top. Ils ont même fait la fameuse chanson. Qui fait avec Erykah Badu, qui est leur plus gros hit. C'est le titre, naturellement, je ne l'aurais pas. Et c'était le guitariste qui faisait la voix féminine d'Erykah Badu.
Ah,
c'était vraiment impressionnant, ça aussi. Fait que The Roots, vous les avez manqués. Il y avait des drones aux deux spectacles, à Monsieur Washington et à The Roots. Fait que je crois qu'ils se trouvent facilement sur...
Oui, je l'ai vu. En tout cas, j'ai vu le vidéo. Le festival faisait des petites vidéos.
Captation. Ouais.
Des petits résumés. En fait, c'est vraiment très court. Là. C'est genre des 1 minute. Là. Mais c'est comme un résumé bien monté de la soirée. Là.
Okay.
Fait que effectivement, oui, j'ai vu Kamasi Washington, mais j'ai pas vu les autres, par contre.
Ah.
J'ai vu un autre show de jazz. On prend-tu encore du temps pour parler de ça?
Oui. Ben, est-ce que tu veux prendre une petite pause, une petite gorgée de café? On le va en musique, puis au retour...
On peut faire ça?
Oui.
Ben oui.
Ouais.
Si t'es prêt à apaiser Play, moi, je vais monter le son du...
À l'attaque.
À l'attaque. Vous écoutez Le Lendemain de la Veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. On vient d'écouter une pièce des Fabulosos Cadillacs qui nous viennent directement d'Argentine. C'est une pièce de l'album La Marcha del Golazo Solitario.
Muy bien, señor.
C'était la pièce numéro 3, Los Condenatitos.
Les petits condamnés.
Le petit condamné.
Si mon espagnol ne me trahit pas ce matin.
Oui, ça fait du sens.
Il y a un vidéoclip. Le groupe, qui est très nombreux, sont dans une caverne. Ce sont comme des miniers. Ils sont sous la terre. Quoi dire de LFC, BSAS, Argentina, Representando, mon groupe favori que je partage avec vous ce matin sur les ondes du 90.3 FM. Si vous ne le connaissez pas encore, vous avez souvent entendu El Matador à quelque part, sur une piste de danse, à quelque part sur la planète. C'est le meilleur groupe argentin, ni plus ni moins.
Fabulosos Cadillacs. C'est des amateurs de Cadi, c'est ça?
Oui, de Cadi. Ils font du golf.
De Cadillac,
je veux dire. Oui, de Cadillac, oui. Ouais, ils ont des grosses Cadillacs, des grosses voitures américaines.
Ça existe en Argentine, des Cadillacs?
Pas vraiment, je n'en ai pas vu en tout cas.
Ça n'existe pas?
Non, pas.
OK. Donc, c'est comme si... Il voulait.
C'est un fantasme américain.
Il souhaiterait en avoir, c'est
exact.
Ça. Hey Marc-André, le temps passe vite. On a beaucoup jasé. C'est déjà l'heure de la pause. Donc, on va arrêter un petit 30 secondes. Et au retour.
What made you drop out?
Well, a lot of people think it was a 400 acid trip they took, you know.
Uh-huh, but what was it really, Bob?
One day I played CKUT in 90.3.
Then what happened?
I saw God.
You I've saw done God. That. Well, that sounds like true enlightenment to me.
Yeah,
Bob.
We okay.
And on the seventh day, the Lord said,
Let there be CKUT.
Pour au lendemain de la veille, sur les ondes de CKUT 90,3
FM.
Yeah. Avant la pause, on parlait des Fabulosos Cadillacs.
Yeah.
Et en fait, avant la musique, on parlait du festival de jazz.
Oui.
Et je voulais vous parler d'un autre spectacle que je suis allé voir.
Vas-y.
Qui est celui de Takuya Kuroda.
Peux-tu répéter ça?
Takuya Kuroda.
J'adore ton japonais. Arigato. C'est
donc un trompettiste d'origine japonaise, mais qui vit maintenant à New York depuis quelques années. Je ne sais pas depuis combien de temps. Que j'ai découvert, personnellement, j'ai découvert ça en ligne, en faisant du surfing de musique jazz. Et ça m'a été suggéré comme ça par le fameux algorithme. Et vraiment, je n'ai pas été dessus. Quand je suis tombé là-dessus, je n'ai pas arrêté d'écouter ça. C'est un trompettiste qui fait des compositions un peu plus jazz style hip-hop un peu.
Mm-hmm.
Et c'est pour la plupart instrumental. Il y a quelques collaborations avec DMC à l'occasion.
Connu ou moins connu? Ou...
Pas très connu. Non, okay. En tout cas, moi, je ne les connais
okay.
pas.
Okay.
Peut-être qu'ils sont connus, mais c'est peut-être juste moi qui ne les connais pas.
Okay.
Et puis, Takuya Kuroda, à son actif, je crois, 3 albums. Rising Sun, Zigzagger et le plus récent, c'est Fly Moon Die Soon.
Hey, ça, mesdames et messieurs, je dois féliciter mon compatriote. C'est tout ça, c'est de mémoire. Il n'y a pas son petit bidule noir.
Il n'y a pas d'ordinateur devant nous.
Il n'y a pas de Wi-Fi. Il y a juste la chaleur. Il n'y a rien d'autre.
Il y a juste la passion pour la musique, Marc-André.
Exactement. Nos cerveaux qui émanent de l'extrême chaleur nucléaire.
Et puis, c'est un super spectacle. En fait, c'est que c'était gratuit, scène extérieure.
Okay.
C'était une nouvelle scène qui était à l'endroit qui aujourd'hui s'appelle l'Esplanade Tranquille.
Oh.
Qui est le nouveau en hiver, c'est là, il y a une nouvelle patinoire. C'est vraiment un endroit qui est super génial.
Okay. Oui, oui, oui.
Il y a une nouvelle patinoire l'hiver, puis il y a comme un bâtiment adjacent avec un vestiaire, des restos, cafés à l'étage. C'est vraiment un super endroit.
C'est comme en deux buildings.
Oui, ben c'est au coin de Clark et Sainte-Catherine.
Okay.
Puis c'était pendant longtemps, tu sais, ce terrain-là, il était comme
terrain
juste...
Terrain vague.
C'était un terrain vacant, il y avait de la garnotte, mais il y avait souvent des scènes dans ce coin-là.
Ouais.
Mais là, maintenant, c'est vraiment comme super aménagé avec...
Il y a des containers aussi, hein, je pense.
Ben, c'est que maintenant, tu sais, au lieu de la patinoire, ben là, c'est de l'asphalte. Puis c'était vraiment littéralement cet endroit-là qu'il y avait au bout de la patinoire, une scène. Mais une scène qui était couverte. Donc, puis même que la toiture, si on peut dire, elle dépassait la scène pour couvrir une partie de la foule.
Okay.
Donc, ça donnait vraiment l'impression d'avoir un spectacle en salle. La scène n'était pas très haute aussi. Donc, il y avait une proximité avec les musiciens qui était vraiment géniale.
Assis ou pas assis?
On était debout.
Debout. Okay.
Mais à l'arrière de la foule, il y avait comme il y a plusieurs tables, plusieurs chaises. Et bien évidemment, il y a des concessions de nourriture. Là. Mais c'était vraiment super bien décoré. Bel éclairage. C'était vraiment génial. Moi, je suis tombé en amour avec cette scène-là. J'ai oublié c'est quoi le nom. Je pense que c'est une scène Molson quelque chose. Okay. Et puis, c'est là que j'ai vu Takuya Kuroda. Il a joué deux fois dans le même soir. Arigato. Deux fois dans le même soir. Puis, il a décidé de faire deux sets complètement différents.
Oh, ça, c'est nice. Ouais. Surtout si c'est un coup de cœur, tu l'as jamais vu, mais tu étais déjà intéressé. Mais quelqu'un là, qui le découvre pour la première fois, live, tu disais, hey, c'est bon, il y a un autre set. Hey, on reste-tu? On reste. Juste pour voir peut-être une toune, deux. Puis là, tu vois que c'est d'autres chansons, c'est d'autres pièces.
Ouais. Il avait annoncé à la fin du premier set de 20h. Puis, aussitôt qu'il annonçait ça, ben, ce qui était curieux aussi, c'était que, bon, moi, j'étais comme un fan conquis, mais j'étais pas tout seul.
Ah,
on était une méchante gang à être des fans conquis, puis moi, je m'attendais pas à ça. Je le connaissais pas beaucoup. Je connaissais beaucoup sa musique, mais lui, personnellement, je le connaissais pas. Donc,
T'es-tu en train de dire que tu pensais que c'était un nobody, puis qu'il y aurait personne qui serait...
Pas un nobody, mais tu sais, je pensais pas qu'il allait avoir autant d'engouement.
Ouais.
Mais écoute, Marc-André, je suis resté pour le deuxième set qui était à 22h. Puis à la fin du set, il y avait la foule était en délire. Comme ça se pouvait pas. J'ai rarement vu ça au festival de jazz. Les techniciens commençaient à démonter tranquillement, mais ils étaient comme clairement intimidés par le bruit de la foule qui réclamait un rappel.
Oh.
Puis là, ils ont comme arrêté. Puis là, ça se jasait en arrière. Tu vois les musiciens se promener. Puis finalement, ils sont revenus.
Non.
Donc, ils ont fait un rappel dans un show gratuit au Festival de jazz. En tout cas, moi, je n'ai pas souvent vu ça.
Ouais, ouais.
Puis, c'était vraiment génial. Donc, à découvrir, Takuya Kuroda en live, c'était vraiment extraordinaire. Puis, en album aussi, c'est très bon. Écoutez ça en montant le volume, ça vaut la peine.
OK.
Ouais.
Ben, merci de la recommandation. Je vois, à la minute que l'émission finit, je check ça. Parce que moi, j'aime bien ça quand tu te dis que le mélange avec le hip-hop. T'sais, on a déjà fait jouer il n'y a pas si longtemps que ça, au début de l'été, à Brentford Marsalis, son projet Buckshot La Funk.
Oui.
T'sais, moi, à minute là, que c'est des jazzmen qui, comme Eric Truffaz, qui vont chercher des éléments plus actuels dans la musique puis qui mélangent ça, ça donne une saveur là,
ouais.
Incroyable. Incroyable.
Ouais. Puis ce qui était amusant, c'est amusant pour moi, parce que bon, j'ai un jeune de 40 ans, puis la foule qui était là, c'était clairement une foule aussi plus jeune. Quand tu te promènes
plus
sur
jeune
le
que toi ou...
Non, ben, tu sais, autour de mon âge, okay. C'était moins de 60 ans, si on peut résumer comme ça. Là, il y avait des jeunes de tout âge, mais clairement, la moyenne d'âge était en bas de 40 ans, parce que, je veux dire, je me suis promené ailleurs sur le site. Si tu vas à la scène blues du festival, on s'entend que c'est un peu plus âgé,
ouais.
Mais c'est correct comme ça aussi. Puis, Takuya Kuroda, c'était vraiment plus jeune parce qu'effectivement, c'est un jazz plus hip-hop, plus urbain.
Mais c'est ça, ça ratisse.
Plus actuel.
Ouais, c'est ça, ça ratisse plus de monde peut-être. Là. Plus de jeunes, je veux dire.
Ouais.
Ouais. Ah, ben c'est cool, on va le découvrir. On en fera jouer, on va être capable de dénicher
ouais,
ça.
Oui, il y a quelques pièces qui ne sont pas trop longues. Là.
Okay.
On pourrait en mettre ça une autre fois.
En parlant de pièces, on va aller quelqu'un qui, lui, était dans le hip-hop de Toronto.
Oui.
Ça commence par K. C'est un spécial K. Je pèse sur le piton. Vous allez reconnaître, ça flirte avec le pop. Vous allez aimer ça. Yeah, chaos.
Get down, cause I'm moving up. not that hard. Where's your
phone? Trying to get down, cause I'm moving up.
Yo, yeah, it's a conniption fit when the microphone's lit. I take it higher like a bird on a wire. Retire the fire, I never, cause I'm just moving on up. Choosing to touch the unseen, craving the clutch. The most inevitable, legible pyromania. Slaying the devil and sending them back to Transylvania. Strangely enough, I evolved outside of the ghetto. But my heavy metal will settle the puppets like Geppetto. Damn, if mirrors were created by sand, then I'm looking in the water for reflections of man. Understand, the mind's above time when it's empty. Tragically hip ahead by a century.
No time to get down, cause I'm moving up. No time to get down, cause I'm moving up. No time to get down, cause I'm moving up. Shake off the crabs in the bucket. No time to get down, cause I'm moving up. No time to get down, cause I'm moving up. No time to get down, cause I'm moving up. Shake off the crabs in the bucket.
Vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. On vient d'écouter une pièce de Chaos tirée de l'album Joyful Rebellion. Et sauf erreur, Marc-André, c'était la pièce Crack Bucket?
Ouais.
Non, Crab Bucket.
Bucket, ouais.
Mon Dieu Seigneur.
Dans le bucket, là, il y a du crab.
Crab Bucket. OK.
Chaos, c'est un gars de Toronto, beaucoup d'albums. Cet album-là, c'est l'album jaune. Il y a l'album bleu qui est Atlantis, si je ne me trompe pas. Il y a l'album rouge aussi. C'est un gars de Toronto. Je l'avais vu, moi, au Festival d'été de Québec. On va reparler dans une émission future,
que oui.
Le FEC. Et il m'avait vraiment impressionné parce qu'il était arrivé... Lui, il joue de la musique. Là. Il joue des instruments. Il fait pas juste... il est capable de rhymer. Il est capable de chanter. Mais il est arrivé avec un full band. Et il avait commencé par du Rush, il avait commencé à jammer sur du Tom Sawyer. Fait que okay. Le monde était comme « What the F, trois petits points
ouais. »
parce qu'il s'attendait à du hip-hop. Puis là, il est arrivé, là, c'était comme Rush. C'était Rush, il faisait une cover de Rush, Tom Sawyer. Puis après ça, il est allé bifurquer sur d'autres choses. Fait que super bon musicien que je suis depuis un bout. Les derniers albums, tu sais, c'est comme... des fois, tu sais, il se répète, mais les premiers albums, celui que tu as entre les mains, Joyful Rebellion, Sure Shot Classic. Classique des classiques.
Paru en 2004.
Oui. Hey, il n'y a pas juste la musique l'été qui est le
ben
fun.
Oui, écoute,
à côté d'une piscine avec un pina colada.
Changeons de sujet.
Il faut de la lecture, mais pas n'importe quelle lecture, de la bande dessinée. De
s'il
la
vous
bande
plaît.
Dessinée, s'il vous plaît. Sorti sur le label, mon label français préféré ces temps-ci. Je n'arrêterai pas d'en parler. C'est un one-shot sur le label 619 Label. C'est des Français. Fait que je ne sais pas s'il faut dire 619 Label.
619.
Label.
Oui.
J'en ai aucune idée, mon mec, mais je te dis, ça cartonne. Ça cartonne parce que c'est une histoire d'Asteda et Ludovic Chestnut. Je ne sais pas si c'est des noms d'emprunt. Fouille-moi. Et c'est Frank Lee, l'après Alcatraz.
Oh, plaît.
Et laisse-moi te lire un petit résumé. Je vais essayer ce matin, je vais faire mes vocalises, de ne pas m'enfarger dans ce court texte. Mais vous allez voir la puissance. Une nuit de juin 1962. Le dernier comptage des prisonniers effectué, le pénitencier d'Alcatraz éteint ses lumières et l'île entière plonge dans l'obscurité de la baie de San Francisco. Il est 21h30 lorsque quatre détenus du bloc B mettent le plan de Rock à exécution. Ils placent alors des leurres dans leur couchette pour tromper la vigilance des gardiens, puis se faufilent dans un trou creusé à l'endroit de la grille d'aération au fond de leur cellule. À l'exception de l'un d'entre eux, ils pénètrent dans un étroit couloir de service dans le but de rejoindre le toit du bâtiment. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire sur le toit? Avec le plan de Rock, c'est ce qui va suivre. Deux heures plus tard, Frank Lee Morris, notre héros dans cette histoire-là, qui a vraiment existé, by the way,
ouais.
John et Clarence Anglin, qui sont des frères, atteignent la rive nord de l'île. Déploie un radeau de fortune.
Mm-hmm.
Là, je rajoute mon grain de sel. C'est avec des sacs de plastique, avec des manteaux de pluie.
Des imperméables, oui.
Des imperméables. Ils se construisent un radeau de fortune et s'évadent de la redoutable prison d'Alcatraz, où on disait dans le temps que personne ne pouvait s'échapper. C'est une île. Ouais. Puis si tu plonges dans ce taux-là, est glacial, il y a du mouvement. Tu sais, il faut que tu sois un super maître nageur. Fait que là, il est 23h30, le 11 juin 1962. Le reste fait partie de la légende.
Wow!
Fait que ces auteurs français-là, qui trippent vraiment sur la culture américaine, pop américaine, l'histoire, se sont basés de faits vécus pour créer l'après Alcatraz. C'est que Frankly s'est vraiment évadé. Ils l'ont jamais...
Il n'a jamais été retrouvé.
Entre guillemets, là.
Oui.
Et ni ses complices. Et à ce moment-là, les complices ont été retrouvés une fois qu'il était mort.
Ah.
Puis qu'il y a eu des notes, puis qu'ils s'étaient confiés à certains de leurs proches. Il y en a qui ont changé d'identité, tout ça. Peu importe. Cette personne-là, Frank Lee, s'est vraiment évadé de la prison. Et c'est d'après les autres documents qu'ils ont trouvés. La recherche qu'ils ont faite. Ils ont quand même fait une bonne recherche, les gars, parce qu'ils en parlent à la fin du livre. Et ils ont construit le mythe, l'histoire de... C'est pas juste l'évasion. L'évasion, c'est intéressant. On la connaît un peu, parce que...
Il y a un film.
Il y a un film de ça, exactement.
Escape from Alcatraz.
Exactement. Il y a
avec
un film.
Clint Eastwood. Oui, excellent film.
Excellent film.
Oui.
T'en rappelles-tu, moi, ça m'a marqué quand j'étais jeune. Ils avaient fait des têtes en papier mâché.
Oui, je m'en souviens très bien.
Puis ils avaient mis dans leur lit. C'est ça qu'eux, ils disent dans leur couchette, là, en tout cas.
Ouais.
Et ils mettent l'oreiller, ils mettent la couverte par-dessus. Puis à force de creuser avec une petite cuillère, là, t'sais, c'est parce que dans la prison, ça s'effritait tout, supposément.
Ouais, c'était humide.
Puis c'était mal, c'était vieux déjà. Fait qu'ils ont vraiment creusé à petite cuillère. Puis je pense qu'ils flushaient dans la toilette ou je me rappelle pas trop.
Ben, je me souviens souvent ils remplissaient leurs poches de.
Sable, puis dans le cours.
Quand ils faisaient leur marche à l'extérieur, ouais, ils vidaient leurs poches.
Ouais,
en
ça,
marchant.
C'est dans le film, ouais. Ouais. En tout cas, c'est tout ça. C'est le mythe de ça, mais c'est qu'est-ce qui est arrivé après, qu'est-ce qu'il a fait. Fait que c'est ce qu'on apprend dans cette histoire-là. C'est sûr qu'il y a une partie très fictive, mais qui est basée sur des choses qui pourraient être plausibles.
Ouais, okay.
Fait que super intéressant. Le dessin, il est nice. C'est des couleurs vives, tout ça. Tu sais, les personnages ont des yeux, des fois, très globuleux, un petit peu manga.
Ouais.
Tout ça, il y a un petit peu de... Tu sais, c'est adulte parce qu'il y a une histoire d'amour, il y a un feu, il y a une tragédie. C'est vraiment intéressant. Il y a des flashbacks dans le passé. Et il y a un journaliste qui talonne Frank Lee, qui a changé de nom, comme je disais. Ils ont changé d'identité. Et là, tu avais raison. Il y a un moment donné, l'histoire, le journaliste dit, tu sais, si tu ne me racontes pas la vraie histoire... tôt ou tard, la prison a fermé après leur escapade.
Ouais.
Le directeur a eu des problèmes, le directeur de la prison, puis tout ça. Fait que peu de temps, les gens se sont beaucoup intéressés à Alcatraz et les scénaristes de Hollywood ont commencé à créer une histoire à partir de ça. Et il dit, tu sais, si tu ne me racontes pas la vraie histoire, le monde va avoir une version probablement biaisée, probablement hollywoodienne, de ce qui est vraiment arrivé et c'était quoi vos conditions dans la prison.
Mm-hmm.
Et c'est là que le film, en même temps que le journaliste retrouve notre Frank Lee, qui avoue jamais qu'il est Frank Lee, mais nous, on le sait en le lisant, ben il dit trop tard parce que Escape from Alcatraz, starring Clint Eastwood and Patrick McGowan, directed by Don Siegel, va sortir sur The Grand Theater à San Francisco le 22 juin 1979.
Ouais.
Et là, dans l'histoire en plus, là, je pense on exagère un petit peu, mais c'est quand même intéressant, c'est que Frank Lee, vu qu'il a une nouvelle identité, va à la première voir le film.
Ah, wow! Ouais. Mais ça, c'est de la fiction, là.
Je crois que c'est de la fiction.
OK. Parce que dans la vraie vie, on ne sait pas ce qui est arrivé avec ce prisonnier-là qui s'est évadé.
Oui. Ben, il y a beaucoup de théories. Il y a beaucoup de théories de
complot. Mais je me souviens juste de la version du film que je ne vais pas spoiler, c'est un vieux film là, des années 70, là, mais on sait qu'il s'évade de prison, on vient de le dire.
Ouais.
Mais c'est que le film termine, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé après son évasion.
Ben, c'est un peu ça. On ne sait pas, ça se lit, c'est le fun. Le côté historique dans la bande dessinée est très solide. Puis le côté fiction après l'évasion est très, très intéressant aussi. C'est très bien ficelé. Je vous la recommande fortement.
C'est vraiment une histoire à l'origine de toutes les histoires d'évasion de prison. Prison Break.
Oui, c'est vrai. Oui. Mais okay, et compagnie. Tu veux dire que c'est comme l'embryon de tout ça. Oui, oui.
Du genre film de prison, histoire de prison.
Oui, sauf que ça a été
Shawshank Redemption.
Oui, ça c'est un classique. C'est un must avoir. Mais ça, c'est encore intéressant. Mais tu sais, les histoires de prison, que le gars rentre de prison, il ressort, il rentre, il s'échappe, ils le reprennent. Une manée, là, tu sais, on va pas faire cette saison. Au moins, avec Alcatraz, c'est comme tu dis, c'est l'origine de le film de prison d'évasion, mais c'est historique. T'sais, on peut aller le visiter encore aujourd'hui.
Ouais. Je dis ça, mais non, je me contre. Il y a un autre film plus vieux, c'est avec Steve McQueen. Comment ça? Je crois que c'est Papillon.
Une prison.
Prison de guerre. Au Vietnam, je crois.
Non, il me semble que c'est dans les Guyanes françaises.
Ah, OK.
Ouais, en tout cas. C'est une prison super rough, puis que personne ne s'évadait non plus, puis que les gardiens torturaient les prisonniers, puis c'est des conditions.
Puis il me semble qu'il y a eu un remake de ce film-là.
Oui, ça c'est vrai.
Dans les années 2000, peut-être. Je fais du coq à l'onde, mais bon, ça me fait penser à ça.
Oui,
est-ce que dans la bande dessinée, qu'est-ce que ça pour toi? Est-ce qu'on revient?
Le piège de Nelson se referme sur Marc-André.
Non, c'est pas du tout un piège, mais c'est juste une curiosité. Est-ce qu'on parle de sa vie avant d'être en prison à Frank Lee?
On le dit discrètement, tu sais, les gars faisaient des vols de banque, puis tout ça, des petites affaires de recel, mais il est déjà en prison, puis il y a déjà le plan The Rock, pas le comédien, mais le plan d'évasion The Rock.
C'était le surnom de la prison, je pense, c'est ça?
Je pense que oui. Puis donc, personne s'évadait. Il y en avait qui s'évadaient, sauf qu'ils retrouvaient les corps qui flottaient ou ils se rendaient pas bien.
Ils les attrapaient.
Eux c'était des maîtres. Ils ont été considérés comme Frank Lee, c'était comme un génie, d'une certaine façon. Pas juste pour s'échapper de la prison, mais tu le vois dans sa personnalité. Il y a un quotient intellectuel très développé. Sinon, puis il avait besoin de ses acolytes pour l'aider à... Parce que sur la pochette, les gars, ils nagent. C'est un radeau de fortune. Là, ils sont dans l'eau. Il fait froid. Ils se sont fait des vestes de fortune, de flottaison. Puis ils rament avec des planches de bois. Puis quand ils arrivent de l'autre bord de l'île, ce qui est documenté, quand ils arrivent à San Francisco, puis qu'ils retrouvent des morceaux, des affaires de la prison... les gars, ils revenaient pas. Quand est-ce qu'il a pu coudre ça ensemble? Quand est-ce qu'il a pu ramasser? Tu sais, je veux dire, c'est un véritable... Là, il faut s'en remettre dans l'époque, là, aussi.
Ouais,
là.
C'est vrai.
Puis il y avait une bibliothèque dans leur... Il y avait des livres qui avaient le droit aussi, puis il y avait des livres qui étaient comme mis à l'index. J'imagine des livres comment faire un bateau de fortune. Mais ces gars-là, ils ont contourné... là, je sais pas si c'est de la fiction ou c'est la réalité historique à vérifier, mais ils sont allés chercher dans des livres différents des choses de... Admettons de... courant nautique, des choses qui pouvaient leur servir à leur plan d'évasion. Fait que je veux dire, faut de là tu y penses, là.
Oui. Fait que, il avait bien préparé son plan.
Exactement.
Bien étudié la chose. Faut dire qu'il devait avoir beaucoup de temps aussi pour préparer ça.
Oui.
Il a dû rester en prison, quoi, un an, deux ans, trois ans?
Ah, c'est un petit bout. Quelques
années.
Ouais, lui était condamné pour longtemps, fait que je pense qu'il avait rien à perdre, là.
C'est clair.
Ouais.
C'est le genre de choses que tu dois réfléchir longtemps quand tu es
juste
en
prison. T'as juste à faire.
Bon, Marc-André, il reste quelques minutes à l'émission. Il reste un beau 4 minutes. Est-ce qu'on y va en musique?
Bon, ou... On peut bien.
Puis on se dit bye là-dessus?
Ouais.
Ouais?
Ouais. On okay. se donne un câlin, puis on vous souhaite un joyeux été. Profitez-en, full énergie, écoutez de la musique.
Allez voir des shows live. Oui. Encouragez la scène locale. Il y a beaucoup de spectacles. On en profite même si certains risques liés à la santé, mais on fait attention,
ouais.
Puis on profite de la vie.
Ouais.
En musique. Restez des nôtres après sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Bye bye.
Hasta pronto.
J'inaugurais, il y avait des possibilités. Comme d'habitude, j'avais trop bu. Comme d'habitude, je m'étais perdu. Encore et toujours irresponsable. Encore et toujours irrespirable. J'ai tant aimé Virginie. Je suis un homme fini. Fini. Tout est fini, tout est fini. Je suis un homme fini. Tout est fini, tout est fini. Ow, ow. Les policiers commençaient de s'occuper de moi. Je devenais de plus en plus important. Je devenais la cible des grands. Et c'est pourquoi encore je vais déménager. Vas-tu réussir à me retrouver? J'ai tant aimé Virginie. Je suis un homme fidèle.
Spreading COVID-19. It's easy. I'll wear a mask in crowded places. If I have symptoms, I'll self-isolate and do a rapid test. If I test positive, I'll stay home for at least 5 days. And for the next 5 days, I won't visit anyone who's at risk. I'll avoid social events like festivals and gatherings. And I'll limit my activities to only the most essential, all while wearing a mask and staying 2 meters away from others. The virus is still out there, so we have to be careful. A message from the Gouvernement du Québec.
Directions on how to use your radio. Find the power button. Turn it to on. Turn the knob to CKUT 90.3 FM. Relax and enjoy. Following is a previously broadcast program.
CKUT on the air, live, 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 CKUT. 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 CKUT.